autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour cette journée spéciale « Déchets, ça déborde » sur RFI. Nous allons nous interroger sur notre rapport aux déchets. Dis-moi ce que tu jettes et je te dirai qui tu es. Qu'est-ce que nos déchets disent de nous? Pourquoi aujourd'hui ça déborde, justement? Les déchets sont-ils le propre de l'homme? Regard croisé de nos invités. Le chercheur Christian Duquesnoy, auteur des « Déchets » du Big Bang à nos jours, et le sociologue Baptiste Mont-Saint-Jean, auteur de « Homo Détritus, critique de la société du déchet », ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs, autour de la question « Quel rapport entretenons-nous avec nos déchets et comment en changer ?» Bienvenue.
Quand on étudie l'homme, eh bien on étudie ses déchets. Pas que, évidemment, il y a aussi les productions artistiques, par exemple. Mais il faut bien l'admettre, les ordures constituent une trace de nos vies, de nos activités et de nos technologies. D'où l'expression « laisser sa trace ».
Sauf qu'aujourd'hui, nos traces, elles débordent. Les archéologues du futur nous appelleront-ils Homo Détritus? Bonjour Baptiste Mont-Saint-Jean.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Champagne à Reims, où vous êtes maître de conférence à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne. Vous êtes sociologue, Baptiste Mont-Saint-Jean, anthropologue de nos déchets, auteur d'un ouvrage remarquable et remarqué, Homo Détritus, critique de la société du déchet, paru au Seuil dans la collection Anthropocène, que vous rebaptisez carrément Poubelle au Seine. Le propre de l'homme d'aujourd'hui, pourrait-on dire, ce sont ces déchets, cette accumulation de déchets, Baptiste Mont-Saint-Jean?
Je ne suis pas forcément très bien placé pour le dire. En revanche, c'est vrai qu'il y avait pour moi un enjeu de rappeler que ce terme d'anthropocène dont on entend beaucoup parler, qui désigne effectivement cette nouvelle période géologique dans laquelle nous serions d'ores et déjà rentrés, qui serait caractérisée par le fait que l'homme serait devenu une force tellurique, avec le terme de poubelle au Seine qui vient un peu critiquer, discuter cette qualification d'anthropocène, on désigne en un sens l'origine de ces traces, la nature de ces traces qui font l'anthropocène. Ce ne sont pas tous les hommes, de façon indifférenciée qui participent à cette transformation des écosystèmes. C'est un certain nombre d'individus, en particulier ceux qui produisent beaucoup de déchets. Et ceux qui produisent le plus de déchets, ce sont les héritiers des sociétés capitalistes industrielles des 19 et 20e siècles.
Qui sont d'ailleurs principalement au Nord, quoique c'est en train de changer également. Bonjour Christian Duquesnoy.
Bonjour Caroline, merci de votre invitation.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous en studio pour partager vos travaux, vos recherches et vos pistes en cette journée spéciale déchets sur RFI. Vous êtes Christian Duquesnoy, ingénieur de recherche à l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement.
Auteur et l'Agriculture.
Et l'Agriculture, qui va bientôt rejoindre l'INRIA.
L'INRA.
Oh là là, je vais y arriver. Voilà, donc vous êtes chercheur dans ce Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture, là j'ai bon. Auteur d'un ouvrage également remarquable et remarqué pour lequel nous vous avions reçu, Les déchets du Big Bang à nos jours aux éditions Quae, qui a d'ailleurs reçu entre-temps le prix Le Goût des Sciences et le prix Robert Val en 2016, dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs, avis aux amateurs. Pour vous aussi, Christian Duquesnoy, les déchets, ce n'est pas que le propre ou le sale de l'homme. Pour vous, disons, les déchets, c'est le propre et le sale de tout le vivant en général. Hein. Il n'y a pas de vivant sans déchets.
Bien sûr, oui. Les déchets, c'est le propre, finalement, de ce qu'on pourrait qualifier de systèmes complexes, dynamiques, qui fonctionnent, qui survivent, parce qu'ils échangent de la matière et de l'énergie avec leur environnement. Donc tous les êtres vivants sont dans ce cas-là, et les sociétés humaines en sont aussi un exemple frappant, avec la particularité d'ajouter des degrés de complexité dans leur organisation, dans leur fonctionnement, et donc des degrés de complexité supplémentaires dans les déchets qu'elles produisent.
Et si je vous demande à chacun, en commençant par vous, Christian Duquesnoy, votre définition du déchet, des déchets, c'est quoi un déchet?
Alors pour moi, un déchet, justement, l'important est de bien comprendre que la notion de déchet est associée à un système, à ce qui les produit, et est la trace de ce qui les produit. Et forcément, le déchet d'un système n'est pas forcément le déchet d'un autre. Alors ça peut être une bonne nouvelle, comme par exemple dans le vivant, parce que les organismes peuvent échanger ces matières, les déchets des uns peuvent devenir les ressources des autres. C'est une des bases du fonctionnement des écosystèmes. Et puis, dans les systèmes humains tels qu'ils se sont organisés, en particulier depuis la fin du 19e siècle, en Europe, dans les pays dits occidentaux, c'est des choses qu'on n'a pas été vraiment capable de mettre en place. Et en associant cette incapacité à mettre en place des systèmes qui fonctionnent comme les écosystèmes avec une société très consommatrice de ressources, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, et ben on a sous les yeux cette accumulation et cette problématique des déchets que l'on a.
Des déchets qui ne sont plus du tout des ressources et qui s'accumulent. Pour vous, Baptiste Mont-Saint-Jean, ce serait quoi la définition d'un déchet, des déchets?
S'il y en avait qu'une, ce serait trop facile. Moi, je veux dire, ça fait plus de 10 ans que, justement, il s'agit pour moi de défricher les formes multiples de définition de cette affaire-là. Que je suis tout à fait d'accord avec Christian, hein, c'est une définition assez biologisante que de considérer que tout être vivant produit des déchets jusqu'à sa mort, en un sens. Et je suis assez d'accord avec cette idée qu'il y a un élan vital, en un sens, dans la production même de restes. Moi, c'est vrai que je suis assez attaché à la définition de Mary Douglas, qui est une anthropologue qui, dans les années 70, étudie les phénomènes de souillure et nous dit finalement le déchet, c'est ce qui n'est pas à sa place au bon moment. Hein, c'est quelque chose qui, dans l'ici et maintenant, ne trouve pas finalement une position, une fonction dans le système social. Et ça, dans le fond, c'est assez vrai aujourd'hui, parce que tout déchet qui serait réintégré dans un système productif, en fin de compte, n'en serait plus un.
Ce qui veut dire aussi qu'il y a une sorte de rupture, en peut-être parler comme ça, à partir du moment où l'homme a inventé des matières premières qui ne peuvent pas devenir des ressources pour les autres parce qu'elles sont non recyclables. Vous pensez qu'il y a une rupture à ce moment-là? On pense évidemment au plastique ou à d'autres matières premières qui différencient du coup l'homme du vivant et le rapport aux déchets de l'homme très différemment de celui du reste du vivant.
Eh bien, pas vraiment, parce que le vivant, à ses débuts, a commis... si vous me passez l'expression, un peu les mêmes erreurs, même si on ne peut pas parler d'erreur si on parle du vivant. Sauf que ça a failli, le vivant a failli s'arrêter parce qu'il y a plusieurs milliards d'années, des bactéries ont inventé, là encore, passez-moi l'expression, inventé entre guillemets, l'utilisation de l'énergie du soleil pour vivre. C'est les organismes qu'on appelle photosynthétiques, utilisent la lumière pour vivre. Et un des résultats de cette innovation-là, c'est de produire un déchet très toxique, qui est l'oxygène.
L'oxygène gazeux. Déchet toxique.
Ben oui, parce qu'à l'époque, aucun organisme n'était capable d'utiliser ce déchet-là comme une ressource. Et l'oxygène est dans les organismes vivants, a moléculairement là, un peu l'effet d'une boule de bowling dans un jeu de quilles. C'est vraiment une molécule qui, quand elle est utilisée par des métabolismes qui ont fini par émerger et s'adapter à l'utilisation de l'oxygène, ça donne une énergie considérable. Ça a permis aux vivants de créer les organismes multicellulaires, de conquérir tous les milieux. Et c'est vraiment un atout pour les organismes, l'utilisation de l'oxygène. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour que des organismes...
Et il y a eu une période où il n'y avait plus de vie sur Terre à cause alors, de trop d'oxygène.
Voilà, le vivant a failli s'éteindre. C'est ce qu'on appelle la grande oxydation qui a failli être bien une première extinction, voire même une extinction définitive du vivant.
Autour de la question des déchets qui nous occupent aujourd'hui, hein, pourquoi ça déborde, on ne parle pas de l'oxygène, malheureusement on parle d'autres déchets, je propose d'écouter un nouvel éclairage, c'est celui du pharmacologue, botaniste et toxicologue Denis Richard qui était récemment notre invité.
Oui, sûrement l'une des grandes différences et l'un des grands drames, il faut dire aussi à l'heure actuelle, c'est la production par l'homme de déchets que malgré toutes les recherches qui sont faites, etc., il ne maîtrise pas, du moins à l'heure actuelle. Il n'y a qu'à voir l'accumulation des plastiques partout sur la planète, la dégradation des océans par ce que l'on appelle les microplastiques qui pénètrent toutes les chaînes alimentaires, que l'on retrouve du plancton jusqu'aux plus gros animaux comme les baleines qui se nourrissent du plancton. L'on ignore à l'heure actuelle quels seront le devenir des organismes à terme de cette imprégnation du plastique. On pourrait évoquer aussi la pollution très lourde par les métaux lourds, etc., tous les déchets issus du matériel électronique ou autre. Et à ce titre, il y a tout lieu de s'inquiéter, car l'homme est quand même le seul animal qui produise des déchets qui ne puissent être transformés pour un certain nombre d'entre eux du moins, par les autres êtres vivants et qui s'accumulent sur la planète. Donc pendant des siècles et des siècles, l'homme a produit des objets qui étaient recyclables en quelque sorte, ou qui finissaient par se dégrader totalement dans la nature. Ce n'est plus le cas à l'heure actuelle et il y a lieu véritablement de s'en préoccuper.
Baptiste Mont-Saint-Jean, sur cette question des plastiques, vous avez vous-même participé à la première expédition dédiée à l'identification de plastique dans la mer en Atlantique Nord. C'est même ça qui vous a mis sur la piste de votre thèse et de ce travail sociologique, anthropologique sur les déchets, le plastique.
Oui, oui, absolument. Alors effectivement, sur cette histoire de rupture dans l'histoire de la production et de la gestion des déchets, moi je serais, en tout cas en tant qu'observateur de l'histoire humaine, l'histoire urbaine en particulier, moins continuiste ou moins défenseur d'une histoire de la continuité. Il existe à la fin du 19e siècle une rupture que beaucoup d'observateurs de l'époque ont qualifiée de rupture métabolique dans les interactions entre ville et campagne. Pour le dire très simplement, jusqu'à la fin du 19e siècle, les villes produisaient des restes qui servaient à la production agricole périurbaine et des restes qui étaient pour l'essentiel organiques et donc qui trouvaient une place dans ce cycle, dans ces cycles du vivant. À partir de la fin du 19e siècle, du fait de l'accroissement démographique et du fait de l'arrivée dans ce gisement de restes qui ne retrouvaient pas leur place dans les dispositifs ou les phénomènes de putréfaction. Effectivement, les premiers polymères arrivent à la toute fin du 19e siècle en Europe, de façon un peu plus massive au début du 20e siècle et carrément massive après la Seconde Guerre mondiale. Bref, l'arrivée de ces éléments extérieurs, notamment des polymères de synthèse, vient perturber ces équilibres entre ville et campagne et vient transformer radicalement la façon dont on aborde le déchet. Là où le déchet pouvait toujours servir effectivement à une production ultérieure, dans une logique circulaire, cette rupture qui apparaît à la fin du 19e siècle impose la mise en œuvre de dispositifs de stockage, de gestion de déchets qui consistent en gros à remplir des trous et à les refermer avec, pourquoi pas, une base de loisirs ou un parc naturel sur le dessus pour oublier surtout ce qu'on y enferme.
C'est ça que vous mettez en avant, Baptiste Mont-Saint-Jean, c'est qu'il y a une espèce d'oubli. Enfin, on se dit, mais comment s'en débarrasser? C'est la seule manière dont on a pensé ces déchets qui, en plus, sont de plus en plus importants et qui, effectivement, ne sont plus ou pas encore recyclables.
Ça a été longtemps considéré comme la manière la plus économique, en fait. Si ce choix a été fait fin 19e, début 20e, le choix du tout à la décharge, pour le dire simplement, c'est que c'était face à d'autres solutions qui existaient déjà, les solutions du recyclage ou la solution de l'incinération, la solution qui était réputée la moins chère. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte que remplir des trous à l'infini, il y a un moment donné où effectivement ça débordait, et ça débordait mécaniquement, j'ai envie de dire.
Christian Duquesnoy. Oui. Par rapport à cette question des déchets, à cette sorte d'oubli, on ne s'est pas rendu compte qu'on produisait de plus en plus de déchets et de plus en plus de déchets non recyclables.
Alors c'est effectivement une rupture à fin 19e siècle qui est très intéressante parce que c'est aussi le moment où on invente finalement, alors non pas le mot déchet, mais la notion de déchet comme un peu un fourre-tout. Parce que auparavant, pendant en particulier tout le 19e siècle, on a des tas de choses qui pouvaient rentrer dans la catégorie de déchets, mais qu'on appelait différemment. On appelait des chutes, des scories, des ordures. Et puis on avait des classes différentes parce que on utilisait toutes ces matières-là. C'est le siècle des chiffonniers qui récupéraient tout et qui alimentaient. Et c'est là où il y a un paradoxe, qui alimentait le système industriel qui venait de la Révolution industrielle et le système industriel naissant qui s'est beaucoup alimenté pendant la grande majorité du 19e siècle de ces matières qu'on appelle maintenant des matières résiduaires ou des matières premières secondaires.
Il y avait tout un marché.
Il y avait une économie, tout un système économique fondé sur le chiffonnage, la réutilisation, le réemploi et le recyclage, en particulier du verre, des chiffons pour faire du papier. Voilà. On les appelle chiffonniers parce que la grosse industrie qui était très gourmande, c'était l'industrie du papier qui avait besoin de chiffons. Et puis, ce qui a sonné un peu le glas de tout ça, il y a eu un événement, une innovation, qui était l'invention de la pâte à papier à la fin du 19e siècle, parce qu'on n'avait pas assez de chiffons pour fournir l'industrie gourmande du papier. Donc, on a fait appel à des inventeurs. On a inventé la pâte à papier. Pratiquement, du jour au lendemain, on n'a plus besoin des chiffons. Et du coup, on a eu beaucoup moins besoin des chiffonniers. Et puis, on a eu aussi la pression des hygiénistes qui nous ont montré... Enfin, le propre, qui allait aussi avec une notion de propre social. Il fallait sortir de Paris les classes laborieuses parce qu'elles menaçaient aussi le pouvoir en place. Enfin, il y a vraiment des interactions très, 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 très fortes avec la politique et avec l'économie et avec la sociologie.
Et avec le regard qu'on porte encore aujourd'hui, c'est très moralisateur souvent. Attention à ce que vous
jetez. Mais le déchet, à cette époque-là, c'est là que le déchet est devenu quelque chose de sale. pour plein de raisons, sous pression des hygiénistes, mais aussi parce que du coup, comme les chiffonniers ne pouvaient plus faire leur travail, et qu'on a inventé la poubelle, hein, du nom du préfet, ce récipient où on devait tout mettre, et puis on allait s'en occuper, on allait l'éliminer, sortir des frontières de la ville, eh bien on a tout mélangé. Et on a mélangé en particulier les matières minérales qu'on pouvait récupérer avec le fermenté cible, ce qui pourrit, ce qui fermente et qui sent mauvais. Et du coup, on a l'image du déchet tel qu'on la connaît aujourd'hui est née là, hein, quelque chose de mélangé, dont on ne sait pas quoi faire, de sale, de dangereux. Et finalement, quelque chose dont on ne veut plus. Hein. Même à l'époque, on a continué à essayer de vouloir revaloriser, réutiliser, recycler ces déchets. Mais finalement, il y avait une image de marque tellement négative que plus personne ne voulait de cette matière récupérée.
Alors, vous dites qu'on s'en débarrassait déjà, hein, loin des villes, qu'on a toujours essayé de s'en débarrasser. Aujourd'hui, on s'en débarrasse au sud, évidemment, puisque c'est au nord qu'on en produit le plus. Donc, c'est au sud qu'on l'envoie, ce qui n'est pas sans poser de grandes questions. On n'est pas non plus sans encourager tous les trafics mafieux. Comme illustre le grand reportage d'Eike Schmidt, Malaisie, nous ne sommes pas votre poubelle, qui sera diffusé mercredi prochain, mercredi 20 sur RFI. Un grand reportage qui s'ouvre sur le cri de colère de Lydia Hong, habitante de Sungai Petani, ville malaisienne qui croule sous les déchets plastiques depuis la décision de la Chine début 2018 de fermer ses portes aux plastiques étrangers.
Nous trouvons en Malaisie des déchets qui viennent de la France, du Canada, des États-Unis, de la Chine, de la Corée, du Japon, de la Belgique, de la Turquie. La Malaisie est le champion international des déchets. Nous sommes devenus la poubelle du monde entier. C'est triste. C'est pourtant un droit humain de base de vivre dans un air propre et de boire de l'eau pure. Mais nous subissons une pollution grave, jour et nuit. S'il vous plaît, gardez vos déchets. Ne les envoyez pas à d'autres pays.
Le cri de colère de la Malaisienne Sylvia Hong dans le reportage d'Eike Schmidt à suivre absolument ce mercredi sur RFI. Malaisie, nous ne sommes pas votre poubelle. C'est une énorme question aujourd'hui que nous envoyons nos déchets de toutes sortes. Alors les plastiques, en commençant par les plastiques, mais pas seulement. Nous envoyons,
Baptiste Montsaint-Jean. En réalité, on envoie d'abord des cartons, des papiers et des cartons en termes de volume. Hein, très longtemps, le volume qui était concerné majoritairement par ces enjeux d'exportation de déchets, c'est d'abord les cartons et les métaux qui connaissent depuis les années 50, on va dire, des filières extrêmement stabilisées, notamment dans les pays asiatiques. Mais effectivement, ce qui est apparu dans le gisement de déchets, notamment dans les gisements à l'export depuis une dizaine d'années, c'est l'arrivée massive dans des proportions de plus en plus importantes de ces déchets plastiques. Et de fait, les deux vagues de réformes chinoises, hein, le Green Fence de 2013 et en 2017, le National Sword, donc ce coup de sabre national qui a été décidé par le gouvernement central chinois, a mis un terme à 15-20 ans d'utilisation de la main-d'œuvre, notamment du sud-est de la Chine, pour la transformation de ces déchets plastiques. Là, l'enjeu majeur, c'est la nature de ce qui a été envoyé jusqu'alors dans les pays asiatiques. Jusqu'à cette réforme chinoise, les transformateurs, les traders de déchets occidentaux envoyaient un peu le tout venant, et notamment les déchets mélangés que la main-d'œuvre à bas coût chinoise permettait de trier sur l'État en Chine. Et c'est ce type d'activité qui a été notamment popularisé par le film Plastic China, que peut-être certains de vos auditeurs ont déjà vu, qui a marqué les esprits du gouvernement chinois. Et c'est suite à cette publicisation, on va dire, de ces phénomènes d'ateliers clandestins où on voyait beaucoup d'enfants aussi de familles travailler à la transformation de ces déchets plastiques que cette décision a été mise en œuvre, non sans conséquence sur tout le continent, tout le sud-est asiatique, oui, parce qui de fait a hérité en un sens de ces flux de déchets massifs qui arrivaient jusque-là.
C'est ça, parce qu'on se les refile aujourd'hui, enfin c'est vraiment ça. Les déchets électroniques sont envoyés en Inde, d'autres sont envoyés en Afrique. Les continents au sud deviennent nos poubelles, mais on ne peut pas s'en débarrasser. Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas une solution du tout.
Et non seulement ces pays sont nos poubelles, mais sont aussi nos usines. Et ce qu'on oublie très souvent, c'est que là, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les déchets de consommation, hein, nos emballages, tous nos biens de consommation usagés qu'on jette. Mais il faut penser aussi à tout ce que produisent les industries, l'agriculture également. Hein, tout ça sont des activités très productrices de déchets. Un petit exemple avec des chiffres. Hein, un téléphone de 150 grammes, un smartphone qu'on a dans la poche, ça représente 75 kilos de déchets de production, incluant les stériles miniers quand on extrait les métaux. Un ordinateur, c'est à peu près le même rapport. Hein, c'est des rapports de 1 à 500. Derrière 1 kilo de ces équipements-là, il y a 500 kilos de déchets derrière. Ah, et ils ne sont pas produits chez nous. Ils sont produits dans les pays qui sont nos usines, aussi bien pour nos smartphones que pour nos meubles. Et qui doivent alors les retraiter. Là, voilà,
c'est compliqué.
On n'a pas les mêmes normes environnementales, sociales. Et effectivement, on a là quelque chose qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on appelle les flux cachés ou les déchets cachés. Hein, c'est ce qu'il y a, une espèce d'ombre gigantesque qu'il faut imaginer derrière presque chacun des objets qu'on a chez nous. Et même chez nous, la part des déchets ménagers dans la production nationale de déchets, c'est seulement 12% en tonnage de cette production.
Donc
on a en particulier les déchets du bâtiment et des travaux publics qui sont en tonnage la part la plus importante. Ouais. Si on extrait de cette comptabilité-là les déchets des activités agricoles, ça on
pourrait
en parler, mais voilà. Et elles sont plus comptabilisées maintenant dans cette production.
Du coup, il y a donc tous ces déchets qu'on ne voit pas, c'est absolument monstrueux, que nous produisons et que notre mode de vie produit et qu'il faut bien traiter. Du coup, il y a aussi, vous en parlez, Baptiste Mont-Saint-Jean, des sortes d'effets pervers, de grosses infrastructures qui sont créées dans les pays du Sud notamment, qui sont peut-être pas non plus la solution, parce que si on crée de quoi retraiter, entre guillemets, avec tous les guillemets, ces déchets, ben on va continuer à en produire, c'est ça ?
Mais absolument. Enfin, il y a différentes choses. Il y a un enjeu, effectivement, de développement industriel. C'est que les pays du Nord n'ont pas les capacités techniques dans leurs espaces domestiques pour traiter l'ensemble du gisement de déchets qu'ils produisent. En gros, pour le dire très rapidement, en Europe, on peut traiter la moitié de notre production de déchets plastiques. Il va falloir trouver des solutions pour traiter à l'extérieur, du coup, cette autre moitié. Ou de développer une industrie sur place. L'enjeu de développement qui se cache derrière ça, c'est quid des pays dans lesquels les infrastructures techniques et industrielles de gestion de déchets ne sont pas encore développées ? Et est-ce que finalement le développement d'infrastructures industrielles massives qui gèrent des tonnes et des tonnes de déchets à la chaîne, c'est la seule solution technique envisageable et désirable pour ces pays-là. Moi, dans les différents terrains que j'ai pu faire, c'est vrai que c'est assez systématiquement que, ici, au Vietnam, en Afrique, les acteurs de la gestion des déchets en appellent à la mise en œuvre de ce type de dispositif. On veut un incinérateur, on veut une chaîne de retrait, on veut se moderniser. Une des questions qui se pose pour moi derrière ça, c'est quelle stratégie, quelle trajectoire de modernisation se cache derrière la mise en œuvre de ces infrastructures. Est-ce que dans le fond, quand on installe un incinérateur de déchets, on ne s'engage pas à l'échelle d'une communauté humaine, à l'échelle d'un pays par exemple, à produire un tonnage monstrueux de déchets pour 10, 20, 30 ans, le temps de rentabiliser cet investissement ? C'est-à-dire que c'est l'effet pervers, effectivement, de l'installation de ces grandes infrastructures, c'est que pour pouvoir maintenir le feu de ces usines qui sont basées sur l'incinération et la coproduction de chaleur ou d'électricité, il faut produire des déchets. Et donc, ça engage une population à surconsommer, pour le dire simplement. La question que je pose, qui est une question de développement et qui doit être débattue, je pense, entre tous les acteurs du développement, c'est précisément d'interroger la désirabilité et les effets collatéraux, j'allais dire, du développement industriel, de la gestion des déchets.
Je propose de méditer cette question que vous venez de soulever, qui est fondamentale, en écoutant une voix suisse à suivre, Onesia Rittner, qui recycle même les slogans de mai 68, sous les déchets, la plage, sur RFI.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Tombent les petits papiers par terre, les capsules et les canettes, tombent les bouteilles de verre, les paquets de cigarettes. Je me balade en slalom, je marche sur un journal, je m'engle sur un chewing-gum, et vous trouvez ça normal? Tombent les bouteilles en plastique et me mettent plein la vue. Il n'y a rien d'esthétique quand ça pue et ça pollue. Je me balade de travers, c'est un drôle de paysage. Sous la crasse, les prés verts et sous les déchets, la plage. De commission vole sur mon avenue, tombe la consommation. Je me balade en zigzag, un bonbon sous la basket. Si pour vous c'est une blague, alors changez de planète. Tombe jusque devant ma porte les kilos d'âme égoïste, tout ce que le vent m'apporte. Je n'ai pas fini ma liste. Je me balade comme je peux entre les vieux emballages et quelques pas hasardeux, mais sous les déchets la plage. Sous les déchets la plage. Sous les déchets la plage. Sous
en redemanderait presque. Sous les déchets, la plage. Morceau signé Onésia Rittner pour cette journée spéciale déchets. Pourquoi ça déborde sur RFI? Autour de la question, quel rapport entretenons-nous avec nos déchets et comment en changer? Nous sommes en direct avec le chercheur Christian Duquesnoy, auteur des déchets du Big Bang à nos jours et en duplex depuis Reims, avec le sociologue Baptiste Mont-Saint-Jean, auteur de Homo Detritus, critique de la société du déchet, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs. Si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, avis aux amateurs, car il ne s'agit pas d'être moraliste ni simpliste face à cette question complexe, mais c'est plutôt de changer d'approche et de regard, comme l'expliquait ici même le biologiste et mycologue Marc-André Sellos du Muséum National d'Histoire Naturelle.
Alors, moi, je vis dans une société qui croule sous les déchets et qui les voit comme une chose négative et repoussante. Or, historiquement, les déchets étaient recyclés et ils étaient tous une source d'activité ou de revenus. Et je voudrais savoir comment faire dans la société moderne pour arriver à convaincre les gens, quelles seraient les façons de faire pour convaincre les gens que ce sont des ressources et qu'on peut en faire quelque chose et pas simplement les mettre de côté.
Voilà une piste intéressante et qui correspond tout à fait à vos démarches, hein, Christian Duquesnoy et Baptiste Mont-Saint-Jean, chacun à votre manière. Comment faire justement pour que nos déchets deviennent une ressource? Vous parlez de résistance du chiffonnier, Baptiste Mont-Saint-Jean.
Oui, alors la résistance, elle fait écho en fait à ce qui s'est joué, ce que racontait Christian tout à l'heure, à la fin du 19e siècle, quand le préfet Poubelle met en place ces réceptacles à ordures, les chiffonniers vont résister assez fermement à l'installation de ces dispositifs qui, en gros, vont leur empêcher l'accès à ces ressources. Les chiffonniers disant, vous nous, en fermant les couvercles symboliquement de ces poubelles, vous nous empêchez d'avoir accès à notre matière première. Et donc l'idée, c'était pour moi d'essayer de faire de cette figure du chiffonnier une figure tutélaire pour repenser notre rapport aux déchets aujourd'hui et envisager une façon de faire monde avec eux. Non plus de les considérer uniquement sur le mode de la menace, sur le mode de l'hostilité qu'ils peuvent représenter, mais comme des espèces d'espaces de création et d'invention et ponctuellement de critique. Hein. Ce n'est pas une vision totalement irénique que j'essaie de développer.
Mais critique de la société de consommation, mais en même temps dire on peut en faire quelque chose, c'est
oui,
ça.
Et critique aussi de la matérialité. Prenons simplement l'exemple des plastiques. On vit entouré de plastique, là, dans un studio. Je suis seul à Reims, mais je suis entouré de plein de plastique autour
de moi.
Nous
aussi, je vous rassure.
J'imagine. Et on ne sait pas de quoi sont faits concrètement ces plastiques, ces polymères. Est-ce que c'est du PVC? Est-ce que c'est du PET? Est-ce qu'on a affaire à un polyéthylène? Quelles sont les caractéristiques techniques de ce polyéthylène? Est-ce que je peux le faire fondre? Est-ce que je peux le transformer? Est-ce que je pourrais en faire quelque chose d'autre? Cette culture technique, à l'endroit d'un des matériaux qui est aujourd'hui le plus répandu dans les sociétés modernes, eh bien, elle est totalement déficitaire. On ne sait pas, matériellement, fabriquer, bricoler le plastique. On sait bien, pourquoi pas tailler un bout de bois pour s'en faire un bâton ou un objet de marche. Mais avec les plastiques, on ne sait pas. Alors, par exemple, hein, mieux connaître ces matériaux, mieux en connaître les capacités de fonte, les capacités de transformation, pouvoir jouer, bricoler avec, peut être une piste, pourquoi pas, pour penser ce faire monde. Et puis avec les déchets avec lesquels il est impossible de faire quoi que ce soit, j'ai bien sûr en tête les déchets radioactifs, les déchets nucléaires, qui posent des vrais problèmes de développement et des vrais problèmes pour la santé publique, là, peut-être qu'il faut se résoudre à l'évidence qu'avec les déchets avec lesquels il n'est pas possible de faire monde, peut-être que la seule solution, c'est d'arrêter de les produire.
Christian Duquesnoy, vous en pensez quoi de ces pistes et de cette manière de se réapproprier nos ressources? Vous êtes chercheur sur ces questions-là. Effectivement, le plastique, on ne sait même pas de quoi il est fait. Le fait déjà d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe pourrait peut-être nous permettre d'en faire des ressources, de nous réapproprier nos déchets, justement.
Alors oui, c'est bien possible. Je ne suis pas un spécialiste du plastique, mais un spécialiste de la valorisation de ce qu'on appelle les biodéchets. Et c'est vrai que ces dernières décennies, dans les labos de recherche, en tout cas les gens qui travaillent sur ce qu'on appelle les sciences dures, même si j'aime pas beaucoup ce terme-là, hein, en tout cas sur l'innovation technologique, on a beaucoup travaillé avec des partenaires industriels et finalement assez peu avec ce qu'on pourrait appeler des usages plus vernaculaires de la matière. Alors sur le domaine des biodéchets, on a le compostage qui est considéré comme le procédé le plus facile à mettre en œuvre chez soi. C'est pas forcément si évident que ça.
En ville, notamment.
J'en veux pour preuve le fait qu'on a, on a le diplôme de maître composteur, en tout cas le certificat de maître composteur qui a été mis en place, parce que c'est un art, hein, de composter. Sur la méthanisation, on reproche souvent à la méthanisation donc produire du gaz naturel, en fait, le méthane, à partir d'une digestion anaérobie des déchets, hein, contrairement au compostage où il s'agit de mettre en œuvre des organismes qui vont travailler en respirant de l'oxygène, hein, dont on parlait tout à l'heure. La méthanisation, c'est en l'absence d'oxygène. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est aussi, ça peut être aussi un procédé vernaculaire, hein. Il y a des expériences qui ont été menées en Inde dans les années 1920-1930, hein, pour essayer de faire des petits composteurs à l'échelle de village. Et on est en train de revenir à ces questions-là. Hein. J'ai des collègues d'IRSTEA à Rennes qui travaillent sur des micro-méthaniseurs à l'échelle de petites communautés, à l'échelle, par exemple, d'une restauration collective.
Oui, pour essayer que chacun, finalement, puisse faire quelque chose avec
ses
propres déchets.
Voilà, essayer de rapprocher la valorisation, le traitement, faire monde avec ses déchets, comme disait Baptiste, non plus à une échelle nationale ou régionale, mais à des échelles beaucoup plus locales pour se réapproprier cette action.
Alors comment faire monde avec ses déchets, même avec ses déchets plastique, plutôt comment faire art avec ses déchets, c'est le pari du duo électronique Matmos qui a composé un album exclusivement avec des sons de plastique, Plastic Anniversary, le groupe Matmos sur RFI et le morceau s'appelle Breaking Bread. Plastic Anniversary, extrait de l'album du duo expérimental Matmos sur RFI, composé exclusivement à partir de plastique. J'ai vu que ça vous avait plu, Christian Duquesnois. J'ai pas votre... Vous êtes en duplex, Baptiste, mais ça vous plaît aussi?
Ah, c'est ludique, ouais. C'est marrant comme tout.
En cette journée spéciale déchets, pourquoi ça déborde sur RFI, voilà donc une manière de faire quelque chose de ce plastique, de changer en tout cas de regard, de perspective sur nos déchets. Nous sommes donc en votre compagnie. Baptiste Mont-Saint-Jean, vous êtes sociologue, auteur de Homo Detritus. En votre compagnie également, Christian Duquesnois, vous êtes en direct avec nous et vous êtes auteur des déchets du Big Bang à nos jours carrément. Ouvrage dont nous avons quelques exemplaires à vous faire gagner. Amis auditeurs, rien ne se perd et tout se recycle ou presque autour de la question de notre rapport aux déchets. Il faut d'abord commencer par les ramasser. Il y a un de nos auditeurs au Togo sur les réseaux sociaux, Madi Aboukari, qui cherche des contacts pour monter dans sa commune, donc au Togo, une association de ramassage des déchets. N'hésitez pas à nous contacter, nous lui transmettrons vos coordonnées si vous êtes des ONG, si vous pouvez l'aider. Et puis toujours sur le continent où le plastique, les sacs plastiques sont un vrai fléau, direction Dakar, au Sénégal, sur les pas de Modou Fall, l'homme plastique, qui lutte à Dakar contre ce fléau. Charlotte Hydrac, notre correspondante, l'a suivi. Reportage.
Modou Fall transpire sous son attirail. Recouvert de sacs plastiques de la tête aux pieds, il propose un troc.
On va chercher donc des commerçants, des personnes qui sont avec un sac plastique. On va faire un essence donc de sacs plastiques à la place des sacs papier.
Pour Babacar de l'association Sénégal Propre, il faut marquer les esprits.
C'est pour heurter la sensibilité des gens, pour leur dire que le plastique, tôt ou tard, ça va nous bouffer, ça va nous encercler, ça va nous étouffer.
Les sacs plastiques, c'est du poison. Ça va finir dans les canalisations à ciel ouvert, dans les océans ou bien dans les arbres. La majeure partie des industries ne le recyclent pas. Une seconde de fabrication, 20 minutes d'utilisation, plus de 450 ans de pollution. Il fallait que nos autorités arrêtent définitivement donc la production des plastiques au Sénégal.
L'homme plastique déambule au milieu de la foule qui se retourne sur son passage. Certains s'éloignent en souriant. Boubacar Sow, lui, joue le jeu.
C'est formidable aujourd'hui, des gens qui s'engagent comme ça Je sais que certains vont penser qu'il est fou, mais moi je dirais que c'est lui qui a la raison.
Mais vous, vous avez un sac plastique là, dans la main?
Non, ça c'est pas pour moi, on me l'a donné. Hein. Je suis prêt à vous donner mon sachet plastique qui sera changé avec un sachet biodégradable.
Le 43.
À la fin de la journée, tous les sacs en papier ont été distribués, mais l'autre bête noire de Modoufal et ses camarades, ce sont les sachets d'eau. Aussitôt bu, aussitôt jeté.
On n'a pas des poubelles, quoi. Il faut nous trouver des poubelles, c'est ça, quoi.
Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce reportage signé Charlotte Hydrac à Dakar sur l'homme plastique. Il y a énormément à faire, notamment au Sud, mais j'ai envie de vous soumettre en même temps une autre question d'un de nos auditeurs au Togo, cette fois-ci sur les réseaux sociaux. Innocent qui dit, mais le problème de la pollution, des plastiques omniprésentes, c'est le souci. Il est du côté des producteurs ou du côté des utilisateurs? Qui veut répondre? Christian Duquesnoy.
Sur cette question-là, j'ai pas de réponse toute faite pour l'instant. Sur la question des pays du Sud, c'est vraiment extrêmement important parce que moi, j'ai en tête un article qui date déjà de 2013, qui était publié dans la revue Nature, mm-hmm. qui montrait des scénarios de projection des quantités de déchets produites. Alors, c'était uniquement sur les déchets ménagers. Mmh. Jusqu'en 2100, si mes souvenirs sont bons. Et on voyait avec ces scénarios qu'on aurait probablement une stabilisation de la production des déchets dans les pays dits du Nord parce que faible croissance démographique, parce que mise en place de politiques de préservation de l'environnement, mais que, en fait, tout le problème allait être dans d'autres régions du globe où on allait avoir le croisement de deux phénomènes, la croissance démographique et l'urbanisation, qui laissaient présager des augmentations colossales de production de déchets en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et peut-être dans une moindre mesure, mais quand même très notable, en Amérique du Sud.
Baptiste Mont-Saint-Jean.
Oui, bah, je rejoins complètement Christian sur l'analyse de cet article qui, effectivement, a fait date. Alors, il y avait un petit peu dans cet article une fonction prophétique et parmi l'écueil de ce type de prophétie, c'est de dire qu'il n'y a qu'une seule stratégie ou trajectoire de développement possible. Et c'est peut-être là l'enjeu, et c'est peut-être là où je rejoins tout à fait la question de l'auditeur. Évidemment, c'est et les producteurs et les consommateurs qui doivent contribuer et participer à ces transitions, à ces changements de rapport, notamment aux déchets. Le déchet, c'est un point d'entrée, on va dire, dans les grandes questions écologiques qui s'appellent le climat, qui s'appellent le réchauffement, qui s'appellent l'habitabilité même de l'homme, de la Terre par les hommes, et que tout le monde doit, en un sens, activement œuvrer à cette transition.
Alors mais ça demande un vrai changement de mentalité, de paradigme, changement. Oui,
oui. Et j'allais dire notamment au Sud, où il s'agit d'inventer d'autres trajectoires de développement que celles qui ont été dessinées par les pays occidentaux anciennement colonisateurs.
Et on voit bien que ça, pardon.
Et
on voit bien que ça dépasse le simple changement de comportement individuel, que ça renvoie aussi sur des questions éminemment politiques.
Politiques, économiques, on l'a bien compris. Alors, il y a des pistes qui sont développées ailleurs, par exemple en Chine. Mais comment dire, ça ne semble pas tout à fait être notre solution. Je propose d'abord d'écouter ce reportage de Stéphane Lagarde, notre correspondant à Pékin, qui a tourné pour cette journée spéciale déchets sur RFI. Ce petit reportage, vous réagirez ensuite.
Une bouche en fer, grise et verte, qui s'ouvre et se ferme lorsqu'on présente son visage devant la poubelle. Au total, 26 trieuses à déchets à reconnaissance faciale fonctionnent depuis juin dernier au pied des immeubles de la résidence numéro 1 du district de Xincheng dans la bien nommée rue du Vent Nouveau, au nord de Pékin. Des poubelles intelligentes qui savent quand et qui a jeté quoi. Lina, du bureau administratif de la résidence.
Au printemps dernier, les habitants ont signé un contrat doté d'un code QR. Chaque foyer a le sien. Grâce à ce code, nous pouvons suivre les déchets à la trace. En plus, nous procédons régulièrement à l'ouverture des sacs poubelles pour vérifier ce qu'ils contiennent. Si les résidents jettent de la soupe ou des os avec les déchets de cuisine, par exemple, on sait qui a fait le coup et on appelle la famille pour demander des explications et fournir des informations.
Je ne sais pas si nous, on apprécierait. Qu'en pensez-vous? Parce que malgré tout, c'est un effort chinois qu'il y ait moins de pollution, de lutter contre le changement climatique, de lutter contre la pollution par les mines de charbon également. Il y a un vrai effort, mais pour nous, est-ce que vous pensez qu'on se laisserait espionner jusque dans nos poubelles?
Tout dépend qui est nous.
Baptiste Mont-Saint-Jean, oui, c'est ça.
C'est amusant parce que cette décision chinoise dont j'avais entendu parler, effectivement, en fait, est une sorte de copier-coller de quelque chose qui a lieu en Corée du Sud depuis une vingtaine
dizaines d'années, où il y a des amendes, voire parfois dans des cas extrêmes, des sanctions par la prison, en cas d'erreur de tri dans ces déchets. Ce qui peut sembler à l'auditeur occidental une hérésie, et dans un contexte culturel asiatique, quelque chose qui peut finalement assez bien fonctionner. J'ai l'intuition que si on mettait en place ce type de dispositif en Europe, l'idée d'un totalitarisme vert ou d'un fascisme vert serait assimilée à ce type de décision. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a d'autres stratégies que celle de la sanction autoritaire.
Mais en même temps, ce sont aussi des pistes, que toutes les pistes sont à développer.
En France en particulier, sous exemple d'autres pays européens, on a plutôt tendance à privilégier ce qu'on appelle la redevance incitative, qui serait basée sur une pesée embarquée, par exemple, des conteneurs, et qui serait incitative, c'est-à-dire qu'on aurait un tarif dégressif en fonction de ce...
Si
on jette moins, on paye moins, tout simplement.
Baptiste Mont-Saint-Jean, la question de jeter, justement, qu'est-ce qu'on jette? Pourquoi est-ce qu'on le jette? Comment le réutiliser? C'est quand même aussi autour de cette question-là que vous réfléchissez, que vous essayez de nous donner des pistes. Il y en a ailleurs dans le monde des pistes, notamment dans les pays du Nord, je crois.
Oui, alors des solutions. Moi, c'est vrai qu'à l'endroit des politiques publiques de la gestion des déchets, je m'interroge un tout petit peu sur ce que Christian racontait tout à l'heure à l'endroit des déchets organiques. Pourquoi est-ce qu'il y a 30 ans, on a fait le choix de valoriser d'abord et avant tout les déchets plastiques, carton et métaux, pour des raisons économiques, et pas du tout en considérant les enjeux écosystémiques et les enjeux écologiques. Je pense que un des enjeux pour penser ce jeter contemporain, c'est d'abord et avant tout de sortir de la poubelle cette part putrescible, cette part qui peut revenir à la terre de la production de nos poubelles. Et ça, effectivement, il y a des solutions dans le Nord. Je pense qu'effectivement, en Allemagne, en Autriche, l'obligation de composter ces déchets organiques, ça a été fait très très tôt. Et ben, il est jamais trop tard pour se mettre à faire convenablement les choses. Et de fait, une épluchure de pommes de terre, de pommes ou de bananes n'a rien à faire dans une décharge ni dans un incinérateur.
Donc ça serait une première piste, ça.
C'est une piste. Alors le compostage, malheureusement, ça peut pas tout régler. Parce qu'en particulier, par les pots de banane, ça se composte pas très bien. Les déchets carnés, c'est pas terrible non plus dans son jardin. Alors on a la solution du lombricompostage, mais voilà. Depuis, je fais un calcul rapide, pratiquement 30 ans que je travaille dans le domaine des déchets. Je pense qu'il faut pas se penser qu'il y a des solutions miracles, que la solution, en particulier la solution technologique miracle, on les a toutes vues passer, la décharge, l'incinérateur, le tri mécano-biologique. Des termes compliqués pour souvent c'est ce qu'on appelle le green painting ou le greenwashing.
Il
peut y avoir
miracle,
de bonnes intentions, mais souvent tout confier, mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est une très 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 mauvaise idée.
Donc au fond, il faut élargir les pistes. Alors, s'inspirer parfois du sud aussi, de la résistance des chiffonniers pour
je pense qu'il faut essayer d'hybrider des solutions, des solutions à différentes échelles, jusqu'à l'échelle du très local, de petits groupes, de groupes, de collectivités, et essayer, là encore, pourquoi pas, de s'inspirer des écosystèmes qui sont tous imbriqués à de multiples échelles, et où il n'y a pas d'opposition entre du low-tech, si on voulait faire une espèce d'analogie un peu rapide. Le low-tech, ça pourrait être les micro-organismes, et puis le high-tech, les macro-organismes, les insectes, les arthropodes. Et bien, on sait très bien que dans une litière forestière, là où on a ce qu'on appelle les recycleurs de déchets, tout le monde travaille en symbiose.
Donc ce serait ça les pistes à chercher. Je vous propose, pour continuer et terminer aussi cette réflexion autour de la complexité de cette question des déchets, d'écouter l'éclairage ou l'avis du philosophe Frédéric Worms, membre du Comité consultatif national d'éthique, qui était récemment notre invité.
Là, la question, c'est effectivement, il y a un progrès à assumer une politique du déchet, à assumer même la part du déchet dans la technique et dans la vie humaine. C'est un grand progrès. Donc, c'est un progrès qui consiste à assumer aussi le négatif. Et comment faire pour que ce ne soit pas justement une obsession du négatif, l'idée que finalement le progrès technique produit uniquement du déchet toxique, le pire étant le déchet nucléaire qui va effectivement durer des centaines de milliers d'années. Comment faire que on n'aille pas trop loin dans une obsession pour la pollution ou le déchet, et comment faire pour que ce progrès profond qui est d'assumer le déchet reste un progrès.
Qui veut réagir ou enchaîner? Baptiste Mont-Saint-Jean.
Le fait est que ça me fait forcément penser à ce que disait à l'instant Christian Duquesnoy. en insistant sur cet enjeu de relocalisation, faire monde avec ses déchets, cette espèce de phrase qui ne veut rien dire quand elle est lancée comme ça, c'est d'abord et avant tout être capable de les appréhender, de les prendre dans nos mains, d'y remettre les mains en un sens. J'insiste aussi beaucoup sur le compostage domestique, puisque c'est finalement une pédagogie du faire monde avec ses restes. C'est effectivement constater qu'une peau de banane, ça se décompose mal. Et du coup, qu'il faut trouver d'autres solutions, peut-être même de changer ces modes de consommation au regard de nos capacités locales à traiter et à les réinsérer dans des circuits de production. Quand on fait appel à un dispositif technique complexe qui exporte nos déchets très loin et qui les transforme dans une espèce de boîte noire sans lendemain, c'est vrai qu'on est comme déconnecté, décorrélé de notre rapport de ce faire monde possible avec ces déchets. Alors c'est vrai que je ne cherche pas à être très normatif ou à donner de règles du jeu, mais il me semble important, et en tous les cas les systèmes qui fonctionnent bien sont des systèmes qui, en visant l'autonomie détritique, en visant la gestion locale de l'ensemble de ce qui est produit, ont transformé leur mode de production et de consommation. Et ça, c'est assez intéressant puisque un changement est possible à partir du moment où, effectivement, on regarde ce qu'il est possible de traiter, de gérer, d'assimiler sur place.
Arrêtez de, Christian Duquesneau, vous allez conclure, mais c'est finalement arrêter de mettre nos déchets sous le tapis et ailleurs, et le plus loin possible, remettre les mains dedans.
Alors, je ne vais pas forcément conclure tout de suite, mais...
On va être obligé, malheureusement, mais allez-y.
cette relocalisation, elle va aussi dans un mouvement qui est plus large, qui va aussi sur l'augmentation de la durée de vie de nos biens, réparer plus. Il y a tout le mouvement des repair cafés, des ressourceries, et puis voilà, des potagers de proximité, une espèce de retour du vivre ensemble et de s'associer.
Dont les idées viennent souvent du Sud, parce que le recyclage et faire quelque chose
du Sud
avec
ou du Nord. L'idée des repair cafés, ça vient plutôt du Nord. Donc voilà, faut arrêter peut-être de jeter le Nord et le Sud l'un contre l'autre.
Oui, vous avez raison, vous avez raison. Il faut peut-être tout prendre, en fait, tout prendre.
Voilà. Tout va être bon à prendre, là.
Il y a urgence, là-dessus, vous êtes d'accord tous les deux. Je vous remercie en tout cas infiniment d'être venu partager vos recherches, vos interrogations et vos pistes pour cette journée spéciale déchets, ça déborde, sur RFI. Je rappelle les titres de vos ouvrages de référence, qui nous propose un autre regard précisément sur les déchets du Big Bang à nos jours, paru aux éditions Quae. C'est le vôtre, Christian Duquesneau. Je rappelle qu'il a reçu de nombreux prix, Goût de la science, prix Robert Val, prix coup de cœur des médias en 2016. Le vôtre, Baptiste Mont-Saint-Jean, Homo Detritus, a consommé également sans modération et intégralement, il n'y a rien acheté, dans cette critique de la société du déchet, paru au Seuil dans la collection Anthropocène. Je vous signale, chers amis auditeurs qui êtes loin d'ici, que nous avons quelques exemplaires de ces ouvrages, mais aussi d'un autre, Déchets, changez-vous les idées, comment réduire et valoriser nos déchets au quotidien, que vous avez co-signé, Christian Duquesneau, aux éditions Quae. C'est pour vous, chers amis auditeurs, si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale. Avis aux amateurs, merci messieurs, et à bientôt, merci, parce que ça n'était que le début.
Merci beaucoup.
Au revoir Baptiste, à bientôt j'espère.
À bientôt, ouais.
Pour nous contacter, autour de la question... @rfi.fr
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio et sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, autour de la question, quelle langue pour les sciences? Il sera question du français, bien sûr, mais aussi de toutes les autres langues dans lesquelles penser et partager les sciences, avec notamment le chercheur camerounais Yaboum, auteur du premier article en français, s'il vous plaît, dans la revue scientifique The Lancet, plaidoyer contre l'exclusion des francophones dans la science mondiale. À suivre sur RFI, évidemment, demain, même planète, même heure, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre curiosité, chers amis auditeurs. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Le prochain journal, c'est dans un peu plus d'une minute sur RFI.